Aujourd'hui, je suis avec David de Radio Libre. Bonjour.
Bonjour. Jean-Michel Abrassard, Radio Libre Expression, exactement.
Oui, Radio Libre Expression. Et oui, donc tu es un confrère ou un collègue podcasteur et je t'ai invité. Enfin, en fait, c'est un peu une émission crossover, comme on les appelle, où on va un peu échanger sur nos programmes respectifs, mais évidemment, pour mes auditeurs, on va te demander de présenter en quoi consiste ton émission, et puis pour tes auditeurs, je ferai un peu la même chose, quoi.
Oui, alors je reçois des livres de plusieurs maisons d'édition, et ensuite, évidemment, on me donne les coordonnées de l'auteur, et je lui pose des questions qui, normalement, tout le monde voudrait poser. Ceux qui s'intéressent à des sujets spécifiques, tu vois.
Oui, donc sur ton programme, tu abordes des sujets assez vastes. Tu couvres beaucoup de choses, non?
Mais j'essaye, Jean-Michel, parce que je veux pas me cantonner, j'allais dire, uniquement par exemple, au paranormal, mais à beaucoup de sujets d'actualité.
Oui, effectivement, si on s'est retrouvé à être en contact, c'est parce que tu couvres un peu aussi le paranormal, sans pour autant être un sceptique. Qu'est-ce qui t'a amené à couvrir le paranormal dans ton émission? Quels sont tes intérêts de ce côté-là?
Alors, mes intérêts, ils sont, c'est-à-dire, quand j'étais petit, à l'âge de 11 ans, j'ai perdu mon père. Après, à l'âge de 20 ans, j'ai perdu ma mère. Et évidemment, en tant qu'enfant, on se dit, c'est pas possible, que des êtres chers ils disparaissent comme ça et obligatoirement on va les voir un jour ou l'autre de l'autre côté. Mais en étudiant de plus en plus le sujet, j'ai fait aussi des émissions avec des spécialistes, j'allais dire auto-proclamés du paranormal NDE, OBE, tu sais, sur les sujets de la vie après la mort. Ça s'est bien passé, j'allais dire l'émission, mais quand j'ai voulu aller plus loin, poser par exemple les questions qui fâchent, qui dérangent, là, j'ai eu des attaques virulentes de ces personnes, ou du moins de leur entourage. Alors j'ai reçu, je reçois souvent des injures, soit, j'allais dire, des intimidations de personnes qui défendent bec et ongles, par exemple, les dires du docteur Jean-Jacques Charbonnier, avec lequel j'ai fait une émission.
Oui, oui, effectivement, j'avais écouté donc ton émission sur le sujet, où tu as un peu changé de ton à propos des NDE. Enfin, disons que tu es un peu revenu... Même sans devenir sceptique, quoi. Mais je veux dire, tu es un peu revenu d'un certain usage qui est fait de ces sujets pour comment le dire simplement ou honnêtement, mais je veux dire pour médiatique, enfin pour faire de l'argent finalement.
Voilà, c'est ça. C'est pourquoi Jean-Michel, j'ai intitulé l'émission que j'ai fait ensuite le business du paranormal, que j'ai mis aussi sur YouTube. Il y a à peu près 7000 personnes qui ont visionné donc cette émission. Il y a des personnes qui sont très contentes d'avoir écouté cette émission parce que ça a apporté donc de l'eau à leur moulin, ils se posaient des questions. Je suis quand même sceptique, je te cache pas que de plus en plus je vais dans ce chemin qui consiste à remettre en question donc tout ce qui est la vie après la mort. Par exemple, il y a un cas comme ça cet été, au mois d'août, tu sais, une femme australienne qui est morte 42 minutes exactement, ça fait la une des médias. La dame en question qui a fait cette NDE, entre guillemets, parce qu'elle a rien vu de l'autre côté, c'est ça qui est intéressant, Jean-Michel. Alors, elle s'appelle Vanessa Tanasio, T-A-N-A-S-I-O, et en plus, elle a un nom un petit peu, j'allais dire, qui qui va dans le sens des, de la vie après la mort, si je peux dire ça comme ça, parce que Thanasio, tu sais, Thanasos, la mort, quoi, en grec, ça veut dire. Mais bon, donc, et personne, je veux dire, moi, quand j'ai regardé sur certains, tu sais, sur certains forums, quand ils parlent des NDE, personne n'a parlé de cette femme, parce que ça arrangeait personne, étant donné qu'elle a ni entendu quelque chose de l'autre côté, ni vu quoi que ce soit. Et ça prouve que les personnes, en tout cas c'est l'hypothèse que aujourd'hui je crois, c'est que les gens qui prétendent voir quelque chose de l'autre côté, en fait c'est eux-mêmes qui se construisent les images selon leurs propres croyances et leurs propres superstitions. S'ils sont pas croyants dans une religion, ils ont vraisemblablement, j'allais dire, des superstitions.
Ouais, j'étais en train de regarder, c'est vrai que c'est les nouvelles autour de cette Vanessa Thanasio, 40, donc une mère de famille australienne, a été réanimée par des médecins après un arrêt cardiaque et 42 minutes de mort clinique. Et effectivement, elle dit qu'elle a juste 2 jours qui lui manquent, enfin, qu'elle n'a pas de souvenir.
Aucun souvenir. Aucun souvenir. Et ce que je voulais ajouter, Jean-Michel, c'est que les personnes donc qui voient des choses de l'autre côté, parce que j'ai énormément étudié sur le sujet pendant des années, tu vois, et donc c'est que ils se construisent donc un scénario qui est, j'allais dire, exactement pareil que dans les rêves. Alors les personnes qui sont très religieuses, aussi bien dans le christianisme, tu sais, les évangéliques ou les musulmans ou les juifs et les bouddhistes, quand ils rêvent de quelque chose, j'allais dire, d'inhabituel, ils vont forcément dire que c'est un message divin, alors que c'est eux-mêmes qui ont créé ce message parce qu'ils en ont besoin. C'est quelque chose qui est utile pour eux, un scénario qui va les réconforter à prendre une telle ou telle décision, j'allais dire. Alors pour étayer mes dires, je vais donner quelques exemples. J'avais fait une émission sur le sujet de la vie après la mort avec un autre, j'allais dire, spécialiste qui, lui, par contre, par rapport au docteur Jean-Jacques Charbonnier, lui, il parle des incohérences des témoignages. C'est-à-dire, il a écrit un livre et il a dit qu'il y a des cas où les personnes, ils se rendent compte qu'ils sont en train de se créer des visions, soit cauchemardesques, soit des visions agréables, et que s'ils pensent à quelque chose, immédiatement, ça apparaît en image, tu vois. Et c'est ça qu'il faut que les personnes qui s'intéressent donc à ces sujets du paranormal sachent cela, tu vois, pour pas qu'ils perdent de temps, j'allais dire, et qu'ils vivent leur vie pleinement, quoi.
Oui, ça c'est parler vraiment comme un athée, parce que c'est toujours l'idée des athées, si tu crois dans la vie après la mort, tu passes, enfin la vie actuelle n'est qu'une préparation à l'après-vie, mais il faut vivre dans l'ici et maintenant, enfin bon, c'est toujours quelque chose qu'on entend de la part des athées, enfin dont je suis, quoi, mais c'est vrai que je crois aussi que c'est important, cette idée de pas trop projeter vers le futur, et de vivre mais même j'avais souvent ce genre de réflexion en lisant la littérature sur les expériences de mort imminente, mais les gens qui disent ben oui, l'après-vie est quelque chose de prouvé, par exemple, mais bon, alors il y aurait les conséquences du genre, pourquoi les gens qui on dit ben l'après-vie est prouvée, ben ils pourraient très bien se suicider, pourquoi attendre, hein, si on a une vie si formidable de l'autre côté, il y a toujours cet aspect-là.
Oui, c'est vrai.
Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais après cette Vanessa Thanasio, c'est intéressant, mais parce que c'est vrai que les médias ne rapportent pas souvent ce genre de cas de gens qui n'ont rien vu, un peu à l'inverse. Ici, c'est la durée, parce que évidemment dans les articles, ils disent bah oui, elle était morte cliniquement pendant 40 minutes, ça veut pas dire qu'elle était morte, hein, c'était mort clinique, hein. J'aime toujours dire la mort, c'est un état définitif, hein. Si elle est revenue de la mort, c'est qu'elle était pas morte. Mais car c'est juste la durée qui fait qu'on se dit qu'elle aurait dû voir quelque chose. Mais je pense que dans les études sérieuses sur le NDE, les expériences de mort imminente, je veux dire, enfin near-death experience en anglais, Il y a un pourcentage de gens, c'est qu'un faible pourcentage de gens qui voient qui ont une vision, hein. Maintenant, de mémoire, comme ça, à brûle pourpoint, j'ai plus les chiffres. Je crois que dans l'étude de Van Lommel sur les arrêts cardiaques, il y a quelque chose comme, je vais dire une bêtise, mais enfin, ça doit être quelque chose comme 10%, quoi. Mais c'est quand même pas énorme, quoi. Ça, si, enfin, si c'est, on est dans les 10%, même si je suis vraiment pas très sûr de mon chiffre, mais c'est un petit chiffre comme ça. Ça fait quand même
Oui.
qu'une personne, enfin, ça fait qu'une personne sur 9, ça veut dire que 9 personnes vont avoir ce type de mort clinique et ne se souvenir d'absolument rien.
Exactement, Jean-Michel. Et surtout, ça pose quel problème? Là, on est bientôt en 2014. Alors, le problème, moi, ce qui me dérange dans ces témoignages et je veux dire, qui touche au paranormal, surtout NDE et tout ça, ça consolide les personnes en fait qui sont dans la religion parce qu'ils vivent dans la peur. Hein. Toi, tu as côtoyé donc et tu as travaillé dans le monde chrétien, protestant et évangélique. Tu as vu des personnes qui sont dans un piège et qui peuvent pas sortir de leur, j'allais dire secte, hein, moi j'appelle ça comme ça, et uniquement parce qu'ils vivent sous la peur. Tu vois, la peur de je vais plus à l'église, je vais plus à la mosquée, je vais plus à la synagogue, donc Dieu va me rejeter et je vais en enfer. Et je dois sacrifier ma vie, vivre d'une manière, j'allais dire avec des frustrations, une vie quand même, il faut dire les mots, misérables, pleine de tourments dans l'esprit en tout cas, pour espérer aller au paradis. Et c'est pourquoi ces témoignages, quand ils sont mis au jour dans les médias, quand même je trouve que c'est dommageable, tu vois. Et ça n'aide pas les personnes à évoluer, j'allais dire, dans un monde plus libre, parce que les religions apportent des divisions, et ça, malheureusement, on paye tous les conséquences de cela.
Mais j'ai l'impression que dans ce que tu parlais du business du paranormal, là, c'est les auteurs qui naviguent dans ces eaux-là sont plus des auteurs pas trop. Enfin, bien sûr, je veux dire, les chrétiens, ils vont parler des expériences de mort imminente, etc. Mais j'ai l'impression que c'est les auteurs qui sont plus dans vraiment le business du paranormal, c'est une mouvance un peu nouvel âge, comme ça. Enfin, le nouvel âge, évidemment, est aussi une sorte de religion, même si c'est pas institutionnel, mais. Et qui a aussi des défauts, mais et c'est vrai que dans ces milieux-là, ils vont parler des expériences de mort imminente, mais sans jamais, comme tu le soulignais, donner de l'information critique ou de l'information, je veux dire scientifique. Enfin, c'est vrai qu'ils surfent là-dessus. Mais j'ai un peu du mal aussi à me représenter le public, évidemment, parce que je suis pas du tout un nouvel âge dans l'âme. Mais comment, mais
Oui, je vois.
comment. Mais comment eux le vivent, quoi? Est-ce qu'ils le vivent dans la peur ou pas? Ou est-ce que, enfin, le nouvel âge est d'une croyance tellement bizarroïde que
Ah oui, c'est très vaste. Et en plus, il y a un gros business aussi derrière. Quand tu vois les gens, par exemple, ils promettent des guérisons, tu sais, en telle pratique. Moi, j'écoute des fois des émissions dans des forum ou quoi, tu sais, qui donne des liens comme ça juste pour avoir des idées pour faire une émission, tu vois. Et j'ai quand même du mal à comprendre comment des personnes donc payent des séminaires, participent, tu sais, à des conférences ou même ils vont faire des jeûnes, tu sais, ils mangent pas, ils vont marcher dans la nature soi-disant pour se purifier, tout ça. Et malheureusement, ça devrait pas exister. Ça devrait être encadré parce qu'il y a des gens qui peuvent, je veux dire, tomber malades quoi de ces pratiques. Aux États-Unis, par contre, il y a eu des cas où encore récemment, tu sais, dans une hutte, ils faisaient comme les Indiens quoi. Ils faisaient bouillir donc de l'eau, tout ça. Ils vivaient plusieurs heures dans cette tente en méditant, mais certains sont morts d'épuisement carrément, tu vois.
Ouais, c'est les fameuses huttes de sudation, hein. Il fait extrêmement chaud, c'est comme être dans un sauna, quoi. et il faut rester là-dedans pour éliminer les toxines ou quelque chose dans ce style-là, mais effectivement,
exactement.
On peut en mourir.
C'est tout à fait ça. Mais il y en a qui sont morts, et les familles ont porté plainte, mais bon, ça ne fait pas revenir la personne. Et voilà, tout ça, c'est à cause, encore une fois, ça remonte depuis la nuit des temps. On peut voir que dans des écrits sumériens, déjà, toutes ces notions de jugement, de purification, ils existaient. Donc on n'est pas les premiers, je veux dire, à vivre dans cet état d'esprit. Mais il faudrait quand même changer ces choses et apprendre à vivre chacun comme il veut, dans l'épanouissement, et ça sera vraiment un progrès immense pour l'humanité.
Oui, je suis pas très optimiste de ce côté-là. Je pense que ces visions du monde,
je vois. C'est vrai que
ces visions du monde religieuses, on les aura toujours, quoi. C'est vrai que moi, je pense qu'il faut évidemment engager le débat avec les gens qui défendent ce genre de conception, mais de là, ce qu'on puisse, entre guillemets, s'en débarrasser à un moment donné, j'y crois pas trop, quoi. Mais c'est vrai que...
Oui, je voulais parler d'une émission, Jean-Michel, que tu as fait avec Marc Allais. Alors, je donne son nom pour que les auditeurs y puissent rechercher. H-A-2-L-E-T. Il avait fait une émission avec toi sur l'origine mythique du christianisme. Et j'ai écouté cette émission plusieurs fois parce qu'elle était très riche. Donc, il parlait tout simplement comment le christianisme est né par une personne qui a dit des choses au début peut-être atypiques en son temps, en tout cas, tu vois. Et de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur après sa mort, bien sûr. Et des légendes, des mythes se sont construits. Et aujourd'hui encore, les gens croient dur comme fer que Jésus-Christ, j'allais dire, reviendra à la fin du monde. Même les musulmans, c'est marqué dans le Coran. Voilà quoi. Toi, est-ce que tu as eu beaucoup de retours sur cette émission avec Marc Allais?
Oui, j'en ai eu, oui, effectivement. C'est un sujet qui m'intéresse très très fort, mais... c'est pas du facile de trouver des spécialistes en langue française pour parler du sujet, malheureusement, parce qu'en fait ça, bon, c'est un bon vieux paradoxe, mais le problème c'est que pour avoir des théologiens athées, c'est toujours assez difficile. Si tu es athée, généralement tu vas pas faire consacrer 10 ans de ta vie à étudier la théologie.
C'est vrai.
C'est pour ça qu'on en a malheureusement pas assez. Il en faudrait plus, moi je dis. Tous les athées qui nous écoutent, faites de la théologie. Non mais.
Non, mais... Écoute, Jean-Michel, tu vas rester étonné, mais j'ai étudié la théologie donc aux États-Unis. C'était en 2007. Mm-hmm. Tu vois.
Ah ouais, d'accord.
Oui, et bon, pas longtemps, hein, quelques mois, parce que j'étais parti pour étudier 5 ans. Mais faute de financement, donc j'ai pas pu, après, tu sais, parce que je voulais avoir un visa étudiant, ça prenait du temps, les démarches administratives, elles étaient tellement longues, je suis parti là-bas sans visa, tu sais, pour 3 mois quand tu vas en tant que touriste, et donc j'avais étudié tout en ayant le même état d'esprit. Alors c'est vrai que c'est choquant pour les personnes... qui parlait avec moi parce que il se disait qu'est-ce que je fais dans cet endroit, tu sais, pour étudier. Mais ça me fait penser à toi qui tu as dû aussi travailler donc dans le milieu protestant en cachant, tes croyances athées. Mm-hmm. C'est ça, Marc?
Oui, tout à fait, Jean-Michel. Oui, tu as tout à fait juste. Oui, enfin, disons que mon employeur direct, je lui avais explicité la chose, mais bon, après, j'étais un laïc, comme on dit, donc dans le sens chrétien du terme, donc un employé qui n'est pas un prêtre, quoi, ou un pasteur. Donc c'est vrai que dans mes interactions, le reste du temps, j'étais pas supposé l'expliciter, même si mon employeur direct ou mon patron direct le savait, quoi. Donc juste pour les auditeurs qui ne me connaissent pas, je faisais de l'animation de jeunes, hein, c'est vrai, quoi. Mais j'ai jamais eu une relation très conflictuelle sur ce plan-là, c'est-à-dire que mon père était pasteur et personnellement j'adore la théologie. Maintenant, Enfin, sur justement les questions dont parlait Marc Allais dans cet épisode, c'est des questions que je trouve fascinantes, même si je ne crois pas en l'existence de Dieu, ou même pire que ça, puisque, juste pour revenir à l'interview de Marc Allais, je crois qu'il... Enfin, la présentation que tu en as faite est même pas assez extrême, entre guillemets. Maintenant, l'astuce, c'est que ça fait très longtemps que j'ai fait cette interview et que j'ai lu son livre, donc je veux pas non plus... il faut faire parler Marc Allais à sa place, donc je vais dire moi ce que j'en pense, mais c'est la thèse mythiste, quoi. La thèse mythiste, c'est dire en réalité on n'a pas de bonne raison de penser qu'il y ait eu un Jésus historique. Ou alors une autre façon de le dire, c'est il y a peut-être eu un Jésus historique, mais en fait s'il y en a eu un, on ne sait vraiment rien en dire, ou il n'y a aucun moyen de savoir. En fait, c'est une position agnostique quant à l'hypothèse qu'il y aurait eu un personnage historique nommé Jésus. C'est-à-dire que soit il n'a pas existé, on n'en sait rien, soit il a existé, mais de toute façon, s'il existait, il est tellement, la présentation qui en est faite dans la Bible est tellement déformée qu'en fait, on ne sait rien de lui, on ne sait rien d'un éventuel personnage historique. Donc ça, c'est la position mythiste, et je pense que c'est celle que défendait Marc Allais. Et en fait, le contre-argument qu'on m'oppose souvent quand on me dit « Oh, j'ai écouté l'interview de Marc Allais », ça va être de dire « Oui, mais Marc Allais, c'est pas un universitaire, hein, c'est pas un théologien, il a pas fait de doctorat en théologie, donc son opinion ne compte pas. » Bon, je peux comprendre l'argument, mais ça n'engage pas vraiment avec ce qu'il raconte à un niveau très profond, évidemment. C'est un argument un peu facile. Et évidemment, aux États-Unis, il y a des universitaires, donc Robert M. Price, Richard Carrier. Robert M. Price est un double doctorat en théologie, Carrier un doctorat en histoire. Il y a des historiens qui défendent cette position, enfin, je veux dire, des universitaires qui défendent cette position. Alors, ils sont minoritaires, bon... Ok, ils sont minoritaires, ça, c'est un fait. À l'heure actuelle, ils sont un minoritaire. Mais quand on pose la question à par exemple, Robert M. Price, il dit, et alors, quoi? C'est une position minoritaire, ça fait pas que... Enfin, ce qui compte, c'est les arguments qu'on a pour la défendre, pas si elle est minoritaire ou majoritaire. Et une des raisons pour laquelle elle est minoritaire, c'est que tous les enfin, la grande majorité des universitaires qui s'intéressent à la question « Y a-t-il un Jésus historique ?» sont des chrétiens. Donc forcément, ils défendront l'idée qu'il y a eu un Jésus historique. Je crois que Robert M. Price disait même pour rigoler, oh, il y a un consensus scientifique chez les spécialistes du Coran que le Coran est le livre le plus inspiré de la Bible, parce que c'est tous des musulmans fondamentalistes. Quoi. Enfin, c'est un peu ça. Quoi. En fait, il y a un biais dans le consensus. Quoi. C'est une zone de la science où il y a une raison évidente pour laquelle il y a un biais dans le consensus scientifique. Si la grande majorité des gens qui s'intéressent à un niveau universitaire à la vie de Jésus sont des chrétiens, on va forcément avoir un biais, quoi. Voilà. Je sais pas si tu as envie de réagir là-dessus. Mais...
Oui, alors, pour nos amis qui sont chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes et autres, et qui sont persuadés d'être dans la vérité et l'unique vérité, et ils se disent « je connais la vérité », et j'ai intérêt de rester toute ma vie dans cette vérité, sinon j'irai en enfer. Alors, je leur dis, surtout n'ayez pas peur, vous n'allez pas aller en enfer, mais il est bon pour vous de vivre d'une manière complètement libre dans votre esprit, et de faire une recherche toute simple. Donc, un personnage qui réunit les trois grandes religions, à savoir donc le christianisme, l'islam et le judaïsme, c'est bien Moïse qui est cité dans les trois entre guillemets livres sacrés. Alors, on n'en parle pas souvent, mais le roi Sargon d'Akkad, alors je donne son nom pour que ces personnes font des recherches, Sargon, S-A-R-G-O-N, et qui était donc de la région d'Akkad, il a eu la même histoire, comme par hasard, que Moïse, mais plusieurs siècles avant. Et malheureusement, ça, les pasteurs donc n'en parlent pas, les imams non plus, les rabbins non plus. Parce qu'évidemment, ça ferait voler en éclats leur croyance. Parce que ces personnes... mettre sur un piédestal Moïse, lui qui a soi-disant parlé directement avec Dieu. Et dans la Bible, que j'ai lu, le Coran aussi d'ailleurs, et la Torah bien sûr, Parce que quand je dis bien sûr, quand on lit la Bible, il y a la Torah aussi. Donc l'Ancien Testament, c'est la Torah. Je le dis pour les auditeurs qui ne le sauraient pas. Et quand on voit donc l'histoire de Moïse dans la Bible, c'est un peu bizarre parce que c'est le seul personnage qui a été enterré par Dieu carrément, afin que personne ne sache où il est. J'allais dire que ceux qui ont écrit ça dans la Bible, c'est plutôt malin de leur part, j'allais dire. Comme ça, tu vois, il n'y a pas de preuve. On ne peut pas chercher où il a été enterré. Évidemment, il n'a jamais existé. Et donc, pour étayer encore mes dires, il y a quelqu'un qui était croyant à la base, tu vois, et ensuite il a perdu la foi carrément parce qu'il s'est rendu compte. Donc c'est le directeur de des recherches archéologiques à Tel Aviv. Il y a eu des documentaires très intéressants parce qu'il a écrit un livre qui a fait beaucoup parler. Alors c'est un livre qui parle de des histoires de la Bible, par exemple du roi David qui s'est battu avec Goliath. Lui, donc cet archéologue, Israël Finkelstein, il s'appelle, il est allé donc avec son équipe, ils ont fait les fouilles sur place, ils se sont rendus compte que les histoires qui étaient donc dans la Bible, ils étaient fortement exagérés, voire carrément mensongères, tu vois. Et aussi, par exemple, un exemple très frappant, tu vois, à Jéricho, la muraille qu'ils ont fait le tour, donc pendant 7 jours et que ça s'est écroulé, les grandes murailles, comme c'est marqué dans l'Ancien Testament, donc cette équipe sont allés sur place et ils se sont rendus compte qu'ils étaient pas grandes par rapport à ce que la Bible disait, tu vois, c'était très 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 exagéré. Et en fait, quand ils se sont écroulés, ça collait pas du tout avec la Bible, et aussi ça a été dû par des tremblements de terre. Les gens, ils ont toujours été superstitieux. Quand il y avait un tremblement de terre, et Dieu sait, j'allais dire, c'est un jeu de mots, qu'il y en a dans cette région, tu sais, donc en Israël, Palestine, Iran, etc., des régions fortement quand même sismiques, surtout à l'époque, et toutes ces preuves archéologiques, ils sont là quand même, pour nous dire, soit on croit, j'allais dire, dur comme fer, tout ce que l'imam ou le rabbin ou le pasteur va dire, et on n'a pas le droit de remettre en question ce qu'il dit, sinon ça veut dire qu'on est rebelle à Dieu et qu'on n'est pas un bon croyant, tu vois. Et ça, c'est dommage. Alors c'est pour ça que je voudrais vraiment encourager les auditeurs qui sont piégés, j'allais dire, par la religion, de se libérer de tout ça et de quitter leur religion pour vivre leur vie, parce que c'est important quand même, tu vois, on est là pour vivre d'une manière épanouie. C'est dommage de s'empoisonner la vie avec des croyances qui sont complètement basées sur des mythes et des légendes.
Ouais. Oui, moi j'avoue que ma démarche elle est même, enfin je suis très peu dans une démarche, ou de moins en moins avec les années, dans une démarche d'essayer de déconvertir les gens, quel que soit le sujet que j'aborde. Ce qui m'intéresse un peu, c'est la vérité, parce que je pense que j'ai grandi évidemment dans des milieux chrétiens sans vraiment jamais être croyant moi-même. Hein. Moi, je suis ce que j'appelle un natural born sceptique, un sceptique né. Mais malgré tout, je pensais que ce que j'entendais à l'église était quand même une information relativement valide et fiable, ou par des gens, des intellectuels que je respectais, quoi, qui ont participé à ma formation intellectuelle. Et finalement, en plongeant dans ces débats, on se rend compte que effectivement, ce qu'ils racontaient n'est pas. Je dis pas que les pasteurs ne sont pas de bonne foi, ou encore que bon, c'est généralement ce qu'ils pensent et ce qu'ils vont dire explicitement, et il y aura une marche parce qu'ils ont envie de garder leur boulot, ça c'est un autre problème. Mais non, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Alors pour l'Ancien Testament, je pense que je lis des auteurs encore plus, enfin plus qui vont plus loin que ce dont tu parles, je pense, parce que je crois que pour les patriarches, Abraham, Isaac, Moïse et toute la bande, il y a absolument, effectivement, aucune, comme tu viens de le dire, aucune raison de penser que ce sont des événements historiques, hein, on est devant des mythes. La sortie de l'Égypte, c'est un mythe. Mais alors, ça veut dire que même la conquête d'Israël, donc pour moi, je pense que la conquête d'Israël, donc la bataille de Jéricho, etc., tout ça, ça ne s'est jamais produit. Hein, c'est probablement que les Juifs étaient déjà là avant. Enfin, tout ça, c'est un récit fondateur qui est là pour donner une identité politique aux Israélites par la suite, quoi. Enfin, bon, je suis pas historien, je vais pas rentrer là-dedans, mais j'invite les gens à lire Robert M. Price, Richard Carrier, etc. Mais en fait, déjà, de toute façon, il dirait, mais ce qu'on dit là, c'est le consensus chez les historiens. Les historiens savent bien que tous ces récits ne se sont pas produits tels qu'ils sont racontés dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Mais souvent, ce qu'il va avoir, c'est ce qu'on appelle chez les sceptiques special pleading. Donc, on va faire une exception pour Jésus, quoi. C'est toujours dire, oh ouais, mais bien sûr que Noé, Abraham, Moïse, on sait bien que tout ça, c'est des mythes et que ça ne s'est pas produit, même de manière très, enfin, on sait bien que ça ne s'est pas produit comme ça, quoi. Il n'y a pas eu d'exode, etc. On sait que c'est des fictions, hein, qui ont été inventées par la suite pour donner une identité à Israël, quoi. Une identité politique, etc. Enfin, bon, voilà, quoi. Ils se sont inventés un passé pour donner sens à leur pays, quoi. Pour se créer une mémoire collective. Mais ils vont dire, ouais, bon, ok, on est d'accord avec tout ça. Mais Jésus, non, ça, Jésus, non, non, ça, soyons sérieux, Jésus, il a vraiment existé. Et c'est ce passage, moi, qui m'embête toujours. Parce que.
Je vois ce que tu veux dire parce que je rencontre des personnes comme ça. Pour donner plus de précision, Jean-Michel, donc mon père, il est musulman du Kosovo, mais on a de la famille aussi en Bosnie-Herzégovine, en Europe et aux États-Unis, en Turquie. Et ma mère, elle est grecque, tu sais, grecque orthodoxe de Turquie. Donc je suis né dans les deux religions et j'ai eu de la chance, vraiment beaucoup de chance, que mon père était quelqu'un qui a voyagé, qui s'est intéressé à plein de choses et qui a quitté, j'allais dire, les dogmes musulmans. Il s'est rendu compte donc que sa religion s'était basée sur des mythes et des légendes, tu vois. Et donc quand j'étais petit, il m'a dit, fais comme tu veux si tu veux être chrétien comme maman ou musulman, mais il m'a dit, moi, de toute façon, je crois pas, ou tu crois en rien, bon, peu importe. Et moi, j'ai choisi chrétien, tu sais, quand j'étais petit, orthodoxe. Après, je suis devenu un peu plus protestant, j'allais dire. J'ai fréquenté le milieu évangélique. Et je connais très bien ce milieu évangélique parce que j'ai encore des amis qui m'acceptent, parce que la plupart, ils m'ont rejeté, évidemment, quand je leur ai dit que je crois en rien, tu vois. Et le truc, c'est que c'est le monde évangélique, par exemple, il parle beaucoup d'amour du prochain, l'amour de Dieu, mais si tu as le malheur de ne pas croire exactement comme eux, on t'exclut immédiatement. Et en tout cas, je parle pour tout ce qui est pentecôtiste, et tu as peut-être dû, tu as pu constater cela. Et donc pour aussi rebondir sur les musulmans et sur ce que tu as dit sur le judaïsme et que les juifs, tu as dit Jean-Michel, c'est intéressant, que les juifs, ils étaient probablement en Israël depuis toujours. Alors, je parlais tout à l'heure du directeur donc de ces fouilles archéologiques en Israël donc qui s'appelle Israël Finkenstein, il croyait, lui, beaucoup de choses de la Bible. Son métier l'a aidé à ne plus croire. Et il a dit, et en plus, c'est ce qui est fantastique, qu'il a fait des fouilles archéologiques et il a aussi, aujourd'hui, relevé l'ADN, tu sais, des ossements, donc des gens de l'époque. Et il a constaté quelque chose d'extraordinaire, c'est que les Juifs, aussi bien les Juifs que les Arabes, les Palestiniens, les Philistins, ils s'appelaient à l'époque, sont de la même famille et ont toujours été là-bas. Alors, ça, c'est très important pour ceux qui nous écoutent et qui toujours ils ont de la haine juste parce que l'autre il est différent, parce qu'ils ont grandi comme ça et on leur dit il faut haïr les juifs et les musulmans, ils disent à leurs enfants il faut haïr les juifs et les musulmans, vice-versa, tu vois. Et alors que c'est des frères qu'ils ont toujours cohabité. il n'y a pas eu de gens qui sont venus, j'allais dire d'ailleurs ou de loin. Ils sont nés et ils se ressemblent en plus physiquement. Ça, il faut le dire aussi. Et alors, c'est bête qu'aujourd'hui ils se détestent. Mais heureusement qu'il y a de plus en plus, on le voit dans des reportages, des gens qui se moquent royalement de la religion et qui veulent vivre dans la paix. Et moi, j'encourage les gens à arrêter de se chamailler, mais de vivre leur vie parce que c'est le plus important, quoi.
Oui, ça c'est vrai que c'est un point très important que ces mythes construisent notre vision du monde et ont quand même beaucoup de répercussions sur même la politique internationale, etc. Alors qu'ils n'ont aucune validité historique, quoi. Mais juste pour dire, tu mentionnais par exemple David et Goliath, mais je veux dire, il n'y a même pas besoin d'aller en archéologie pour se rendre compte que David et Goliath, c'est une histoire qui ne tient pas la route, parce que même dans la Bible, il y a trois versions différentes de l'histoire de David et Goliath. Ça, c'est aussi un truc que les pasteurs ne disent jamais, mais il y a trois versions différentes et il y a une version où David affronte Goliath, il y a une version où David affronte quelqu'un qui ne s'appelle autrement que Goliath, et il y a une troisième version où c'est quelqu'un d'autre que David qui affronte Goliath dans ces trois versions. Si on compare les trois versions, elles peuvent pas être vraies tout en même temps. Et en plus, Goliath, ça a le sens de géant au départ. Donc, en fait, on est vraiment dans un récit complètement mythique, évidemment. Et comme le montrent les versions contradictoires qu'on trouve dans la Bible, si on les met côte à côte, et elles ont simplement été créées. Bah, c'est la machine politique. Enfin, je veux dire, c'est de la propagande en faveur de David, quoi.
Exactement. Mais pour nos amis musulmans, tu vois, parce que dans ma famille, moi, de côté de mon père, ils sont tous musulmans, alors je te dis pas, certains ne me parlent plus, certains, ils sont ouverts d'esprit, donc ça les dérange pas plus que ça, tu vois, mais ils sont peu nombreux, donc... mais ce que je veux dire, c'est que les musulmans, ils disent, ah oui, mais la Bible, il y a plein de... Comme tu dis, et c'est vrai en plus, il y a tellement de contradictions, de choses erronées, et le Coran, il est vrai parce que Mahomet a reçu directement de l'ange Gabriel le Coran. Alors, moi je dis aux musulmans ce que les imams n'oseront jamais dire, parce que peut-être qu'eux, ils cherchent pas à savoir la vérité, tu vois, parce qu'ils ont un petit salaire, ils ont la reconnaissance et ils cherchent pas plus que ça. Si on voit aujourd'hui, par exemple, les Mormons, et il y en a un qui est aujourd'hui, il est dans la politique américaine, John Kerry, il est Mormon. Et les Mormons, ça a été construit exactement pareil que l'islam, à savoir Joseph Smith, il se promenait dans les bois, il y a à peu près 200 ans de ça, et il a vu une lumière, il a vu l'ange Gabriel, il n'a pas vu un autre ange, il a vu l'ange Gabriel. Et il a reçu des révélations au sujet faire la volonté du seul vrai Dieu, j'allais dire. Et lui, il a la vérité. Ça, c'est ce qu'il pense lui, en tout cas. Mais va faire comprendre aujourd'hui aux Mormons qui se trouvent dans l'Utah, aux États-Unis, qui sont dans l'erreur et que ça a été construit par des affabulations, par des mythes, par des légendes. Eux aussi, ils sont persuadés d'être dans la seule vérité. On en voit des fois, tu sais, ces braves gens qui sont en costume, ils ont un badge en plastique qui a marqué l'Église des Saints des Derniers Jours, tu vois. Et c'est des missionnaires et ils vont vraiment, ils sillonnent la planète, quoi. Qu'ils soient riches ou qu'ils ont une vie plus modeste, ils sont obligés de servir l'Église mormone. Et d'ailleurs, ils se baptisent pour tout le monde, même pour ceux qui sont morts, parce qu'ils prennent un verset de la Bible hors du contexte, tu vois. Mais tout ça pour dire, Jean-Michel, que les musulmans ne savent pas cela, tu vois. Ils pensent, ah oui, mais nous, on a de la chance. L'ange Gabriel, c'est fantastique, il a donné carrément directement tout, ça a été écrit par Dieu, donc il n'y a pas d'erreur et tout. Alors que c'est complètement faux, et donc je ne dis pas que le prophète Mahomet n'a pas existé. Certes, oui, il a existé, c'était un chef guerrier, mais pas plus, bien sûr. Et pareil que Jésus-Christ, ou qui lui a dit certaines choses, et les gens en ont fait ce qu'on sait aujourd'hui, quoi, tu vois.
Oh, non,
ça, c'est bien.
Ouais, le mormonisme, c'est super intéressant de l'étudier pour ces raisons-là. Je crois qu'en Belgique, enfin en Europe ou en France, on le connaît pas bien, mais pour d'un point de vue étude des religions, c'est fascinant parce que justement, ça, bon, que le mormonisme soit une fraude, né d'une fraude, n'est pas difficile à comprendre, hein, pour autant qu'on ait un minimum d'esprit critique. Mais comme tu dis, enfin cette histoire d'Ange Gabriel, ça pose bien ce problème. Et aussi, un des arguments souvent des chrétiens, c'est de dire, ah mais non, par exemple Jésus existait, pourquoi? Ben parce que si Jésus n'avait pas existé, le christianisme naissant n'aurait pas été aussi populaire. Et comment sait-on qu'on est populaire, que le christianisme naissant était populaire? C'est parce qu'il y a eu des martyrs. Or, il y aurait pas eu de martyrs pour une croyance qui était fausse. Bon, c'est un raisonnement qui est tellement fou à tellement de niveaux que ça m'en donne mal à la tête.
Oui, non, mais tout à fait. Les gens se sont, comment dirais-je, sacrifiés. Il n'y a pas que la notion, j'allais dire, du sacrifice ou n'est pas exclusive aux musulmans, tu vois, qui meurent pour leurs idées, malheureusement. Mais des chrétiens sont morts dans des pays musulmans, par exemple, ils ont été torturés parce que les musulmans voulaient à tout prix qu'ils se convertissent, tu vois. Et moi, j'en sais quelque chose parce que, comme je t'ai dit auparavant, ma mère, elle est chrétienne née en Turquie. Et donc, elle me racontait qu'il y a plusieurs décennies avant, il y a longtemps, tu vois, que l'Empire ottoman avait forcé donc les chrétiens à devenir musulmans. Et beaucoup ont perdu la vie. Ils ont préféré, donc, plutôt que dire une prière qui dure 2 minutes, tu vois, et sauver leur vie, mourir en martyr. Je trouve ça, évidemment, dommageable pour eux, parce que vaut mieux faire une prière, je veux dire, si on est kidnappé par des terroristes, vaut mieux, comme ils ont fait certains, tu vois, il n'y a pas longtemps, là, on voit qu'ils sont revenus donc de certaines régions d'Afrique, vaut mieux faire cette petite prière pour faire plaisir aux bourreaux et échapper à un supplice, à une mort certaine, que de rester campé sur une religion, des dogmes qui peuvent nous faire perdre la vie bêtement. En parlant de ça, Jean-Michel, j'en
Juste qu'on reste
profite.
sur la même idée, parce que on est quand même sur la même idée, mais évidemment, si je prenais ça, c'est parce que dans le mormonisme, il y a eu des martyrs au début du mormonisme, hein, et entre autres Joseph Smith, hein, donc le créateur du mormonisme. Donc si le mormonisme est une fraude, ce qu'on pense tous, mais bon, enfin non, sauf les mormons évidemment, mais je veux dire très posé, enfin il n'y a pas de raison de penser que le mormonisme est vrai. Donc bon, les sceptiques pensent qu'il a inventé toute pièce, hein. Et pourtant, voilà, il a été mis en prison, et puis Joseph Smith, il a été assassiné à l'âge de 18 ans, hein, par une foule d'émeutiers apparemment. Et donc voilà, c'est un martyr. Donc si on tient le même raisonnement, on va dire, bah oui, bah, Joseph Smith, c'était le prophète, donc il vient bien savoir si c'était vrai ou pas ce qu'il racontait. Et or, il est mort comme un martyr, donc ce qu'il racontait était forcément vrai, non? Bah non, bah, voilà, il y a des gens qui meurent, même pour des choses dont ils savent pertinemment bien que c'est faux, ou que c'est un... Et donc
Tout à fait.
c'est pour ça que
Pour
je
la
venais.
politique, par exemple, c'est
Ouais.
exactement pareil que la religion. La politique a la même schématique que la religion, aucune différence. Donc, combien de gens sont morts pour des idéologies, j'allais dire, politiques? Et ça fait pas ça une vérité, quoi. Et c'est très dommage pour ces personnes, tu vois. Et j'en profite aussi, Jean-Michel, pour dire aux auditeurs que j'ai pas mal voyagé. Donc, j'ai voyagé d'une manière pas facile, comme un baroudeur, avec peu de moyens financiers. Mais je suis allé, j'ai fait un film que j'ai mis, donc on peut visionner. Donc, je suis président de l'association Stop Terrorisme. Terrorisme, je précise, sans E, tu sais, je l'ai écrit d'une manière anglophone pour que ça soit plus international. Et donc, je suis allé 2 fois dans la zone tribale du Pakistan, d'Afghanistan, pour rencontrer les gens sur place et leur apporter un message de paix pour qu'il n'y a pas, j'allais dire, cette séparation entre l'Occident et ces pays, mais pour qu'ils sachent que on n'est ni meilleur ni pire que eux. Et donc, j'ai pas tout mis, bien sûr, parce que j'ai des heures et des heures de film, mais c'est pour ça, il y a des personnes donc qui ont vu mes vidéos, des amis à moi ici à Marseille, qui m'ont dit, mais tu devrais vraiment faire une association, parce que, un, ça te donnerait la possibilité, donc, de parler de ce processus de paix, mais d'une manière plus légitime, parce que tu es inscrit à la préfecture, c'est reconnu, et voilà, donc si les personnes ils veulent visiter ce site et voir peut-être la vidéo, j'ai fait aussi une vidéo avec un imam dans la mosquée à Marseille, ici. Alors c'est Stop Terrorisme, mais le lien, donc c'est plus simple, peut-être que tu peux le mettre dans ton site, si il y a de la place donc, pour mettre un lien, tu vois, tu me diras, Jean-Michel.
Ok, ça va, très bien.
Mais, écoute, mais on surtout arrive... Radio Libre Expression, tu vois, si tu peux mettre le lien.
Oh, bien sûr, oui.
Oui, parce qu'il y a tout là-dessus.
Oui, je suis en train de regarder pour Radio Libre Expression, pour le...
Donc il y a des podcasts à télécharger gratuitement bien sûr, et aussi sur YouTube Radio Libre Expression. Et oui, je veux préciser aux auditeurs, Jean-Michel, que toi et moi on fait des émissions, donc ça nous prend notre temps, mais on fait ça avec plaisir, et nos podcasts ils sont gratuits, on ne fait pas un business de ça, donc et ça il faut le dire aussi.
Ça va très bien, mais ça sera notre mot de la fin. Oui, effectivement, quand on tape Radio Libre Expression dans Google, on tombe facilement sur ta page Facebook, sur ton podcast sur iTunes et ta page. Et t'as aussi t'as une chaîne YouTube. Donc, je pense que les auditeurs pourront aisément te trouver sur le net. Et bon, voilà, on a beaucoup parlé de religion finalement, mais.
Mais on pourrait faire une émission un jour sur les phénomènes paranormaux, parce que j'ai fait des émissions avec des spécialistes de tout ce qui est ufologie, ça passionne certaines personnes, et il y a beaucoup à dire aussi là-dessus, tu vois.
C'est clair, ouais. Écoute, on reste en contact, et à une prochaine fois alors.
Très bien, Jean-Michel Brassard. Donc, tu es le fondateur de Scepticisme Scientifique. Je te remercie de m'avoir reçu, à Scepticisme Scientifique.
Au revoir.
Au revoir.